au réseau Cogeco. Vous écoutez les week-ends de Paul Oud, votre magazine de la fin de semaine.
10h31. Oui, ce sont des journées très difficiles et je ne fais pas de parallèle entre des histoires qui sont quand même très différentes. Mais nous avons perdu Thérèse et il y a des auditeurs qui l'ont souligné. Deux jeunes bambins qui sont morts, noyés dans des piscines familiales.
Oui, effectivement, des auditeurs qui nous disent qu'il y a eu aussi... Il y a eu le meurtre de ses enfants, évidemment, mais noyade de deux enfants hier. Il faudrait pas les oublier et il faudrait peut-être ouvrir l'œil autour des piscines et des plans d'eau. Alors, ces deux enfants, c'était à Saint-Paul dans la Naudière, ouais. Et c'est des bambins de 2 ans et c'était aussi à Sorel-Tracy. Alors, des enfants donc qui sont morts, qu'on a retrouvés au fond d'une piscine. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup... Il y a eu des noyades, beaucoup depuis le début
de l'été.
Pas mal même, oui. Pas mal plus, je crois. Enfin, on va faire un bilan certainement, mais ouvrir l'œil pour les enfants aussi qui se baignent aujourd'hui, des fois à la chaleur. Et
les circonstances sont différentes.
Les circonstances sont différentes, c'est sûr, mais évidemment. C'est quand même des pertes d'enfants.
Nicole Gibeau, que vous connaissez bien, juge à la retraite. Nicole, bonjour.
Bonjour, Paul.
Nicole, à titre de juge... À titre de juriste, vous avez vu des cas terribles qui vous ont secoué. Vous l'avez même écrit dans votre livre. Quelle est votre réaction là? Parce que je tiens à souligner encore une fois, Nicole, que depuis 7 heures ce matin, la raison pour laquelle on donne un caractère spécial à notre émission, c'est que outre la douleur de la tragédie ressentie partout au Québec, même chez les politiciens, même je disais Justin Trudeau a réagi. Également le premier ministre du Canada, il y a le fait qu'il y a une opération policière très délicate en cours et tout à fait active. Les recherches se poursuivent avec intensité en ce moment.
Oui, absolument. J'ai tellement de peine. C'est difficile à exprimer. Oui, vous avez raison. Je l'ai vécu avec les médias depuis pour plusieurs dossiers, avec vous d'ailleurs, à plusieurs reprises. Alors, mes sympathies à la famille, évidemment. On est dans un contexte très, très, très particulier. Vous l'avez soulevé. Puis j'ai écouté votre émission depuis le début ce matin et c'est fort intéressant, tout ce qu'on entend. Et ça me donne aussi des pistes, là. Il y a un accident. Évidemment, on est dans les hypothèses et je pense que tout le monde est prudent et tout le monde va rester prudent parce qu'on n'a aucune idée. Les policiers, même ceux que vous avez eu à votre émission, sont très prudents à l'effet que c'est des hypothèses. Il est un témoin important parce qu'avant d'arriver à un suspect, il va falloir qu'on lui parle. Est-ce qu'on l'appréhende? Comment on va l'appréhender? Dans quel état il est? Ça, le docteur Chamberlain l'a très bien expliqué. Est-il en fuite? Il semble être en fuite, de toute évidence, après ces événements-là. Mais dans quelles circonstances se trouve-t-il en fuite? Est-ce qu'il est complètement perdu? Est-ce que peut-être, peut-être pas? Peut-être qu'il sait exactement ce qui est arrivé. Est-ce qu'il a voulu laisser ses enfants pour aller chercher du secours? On a entendu plein de choses qui fait en sorte que, bon, évidemment, ces policiers-là veulent le rencontrer. Et dès qu'on va avoir les résultats de l'autopsie, dès qu'on va avoir, évidemment, trouvé cette personne qui est un témoin à ce niveau ici, là, un témoin important, ben on pourra peut-être avoir certaines réponses. Et oui, éventuellement, comme disait Mme Roy tantôt, peut-être avoir un processus judiciaire, évidemment, s'il est toujours vivant à ce moment-là. Parce que se sauver, Paul, en soi, ça allume, il y a une espèce de conscience coupable, peut-être, s'il se sauve. Mais peut-être qu'il est complètement il a perdu la carte. On n'a pas assez d'indices, je pense, pour savoir s'il y aura ou non un dépôt d'accusation. Mais évidemment, il faut l'envisager si on trouve le témoin important.
Évidemment, la nouvelle est tellement difficile à absorber pour tout le monde. Je dis à tous les niveaux. On peut être cynique et dire « Ah, les politiciens réagissent de façon politique ». Non, je pense que vraiment les premiers messages, hier notamment, de François Legault, de la vice-première ministre, Mme Guilbeault, qui elle-même a donné naissance à un autre enfant il n'y a pas si longtemps. Non, là, il ne faut pas être cynique à ce point-là et dire « c'est une réaction normale ». Mais là où je veux vous amener, Nicole, et c'est important de le faire, c'est qu'un réflexe naturel que nous avons, et pas seulement au Québec d'ailleurs, c'est de tout de suite essayer de trouver des coupables, des boucs émissaires. Comment se fait-il que la mère n'a pas été plus vigilante? Pourquoi est-ce que la conjointe n'a pas été plus insistante et tout ça? Est-ce que c'est pas dangereux comme processus? Parce que même le docteur Gilles Chamberlain, que vous connaissez très bien, et qui est et qui apporte souvent son expertise de psychiatre pour collaborer avec la justice dans des grands procès, nous a dit, écoutez, malgré toutes les ressources policière de l'État, les ressources juridiques, il est très difficile de prévenir ce genre de situation.
Oui, puis on l'a vu vraiment dans un dossier qui a marqué l'imaginaire au Québec, et vous l'avez souligné dans votre émission, avec M. Turcotte. Alors, on se souviendra que jusqu'à la dernière minute, à l'hôpital, il était très fonctionnel, un excellent cardiologue, etc., etc. On a entendu plein de choses. C'était inimaginable de penser qu'il serait arrivé à cette situation-là. Comme ça arrive dans plusieurs dossiers, on comprend pas comment, qu'est-ce qui a fait en sorte que les fils se sont touchés, si c'est le cas, parce qu'on n'a aucune idée dans les circonstances. Puis, mais c'est vrai ce que le docteur Chamberlain, ce que vous soulevez, c'est quelque chose c'est difficile à comprendre, difficile à expliquer. Et moi, j'avais une pensée pour aussi beaucoup pour les premiers répondants qui ont trouvé. On se souviendra que les policiers en question là, ou les premiers répondants sont sous le choc, là, que ce soit les gens qui les bénévoles, les policiers. Et évidemment, je me souviens très bien quand j'ai couvert ces procès-là pour les médias que d'entendre et de voir la douleur dans les témoignages de ces gens-là, c'est incroyable. C'est vraiment pathétique. Alors, juste le fait de trouver deux jeunes filles, deux petites filles qui avaient toute la vie devant elles, on ne sait pas dans quelles circonstances, on ne sait pas comment non plus, et ça, malheureusement, et on va en apprendre plus avec l'autopsie.
Et donc, vous venez d'être notre dernière intervenante, et vous allez dans le même sens que tous nos autres intervenants. Attention, il faut des réponses à ces questions-là. Vous, en tant que juge, évidemment, vous écoutez les deux parties. Vous écoutez le procureur de la Couronne, le représentant de la Couronne, vous écoutez l'avocat de la Défense.
Oui.
Dites-moi, Nicole, est-ce qu'il est possible, dans des situations aussi émotives, vous en tant que juge, de dire, ben le rôle d'un avocat de la défense, c'est de défendre son client, malgré le fait que la nouvelle a été tellement envahissante et révoltante souvent?
Oui, et on l'a vu dans tous les procès, même les pires au Québec. Et oui, c'est leur devoir. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils s'assurent que tous les droits, et je sais que ça fait frissonner plein de gens, mais on est dans un système de droit. Et oui, il faut faire la part des choses. Il faut quand même qu'il y ait un respect. Il faut pas aller au-devant des choses. Il faut écouter, et c'est ça le rôle du juge, et ça sera ça si, et on dit bien s'il y a procès, il faut pas aller au-devant. Il faut attendre la preuve, il faut voir dans quelles circonstances, il faut écouter des experts, des policiers, la famille, des médecins peut-être, etc. Et après ça, prendre une décision responsable comme société de droit, parce que c'est sûr que les accusations, c'est facile, c'est sûr que de blâmer, c'est facile, c'est sûr que de pointer du doigt, on l'a vu régulièrement, on a vu une révolte presque au Québec lorsqu'il y a eu une non-responsabilité criminelle pour Guy Turcotte, mais finalement, on a eu un deuxième procès, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment y aller avec une grande patience, une grande ouverture d'esprit.
Une grande patience. Et Nicole, je pense que tu peux nous dire que quand les événements sont médiatisés comme ils le sont présentement, c'est encore plus délicat?
C'est encore beaucoup plus délicat. Vous avez tout à fait raison, Thérèse, parce que c'est sûr qu'il y a plein de choses qui est tellement médiatisées puis qui va être tellement... C'est après ça, hein, on va aller plus loin là. Si, et je dis bien si, on se rend à procès devant le jury, on va avoir le même questionnement. Est-ce qu'on peut avoir un jury impartial? Est-ce qu'on peut ne pas avoir entendu parler du dossier Fredette, du dossier Turcotte, du dossier de la Nouvelle-Écosse? Alors oui, c'est sûr que c'est plus délicat. Mais je vous assure que le travail du tribunal, du juge et des avocats à ce moment-là devient délicat dans l'explication de vous pouvez avoir eu une opinion. Mais vous devez vous écarter de tout ça puis entendre seulement et juger sur la preuve.
Merci beaucoup de nous avoir parlé, Nicole Gibault, ce matin. Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir. Oui. 10h41 minutes, on va s'arrêter. Nous quittons l'antenne à 11h, mais bien entendu, notre service d'information va vous transmettre toutes les informations pertinentes au dossier, notamment Benjamin Aubert. Je vous rappelle que notre correspondant qui était là, notre collègue, a été longtemps au poste de commandement du centre communautaire de Saint-Apollinaire. Il a fait le déplacement là parce qu'il sent qu'il y a peut-être une activité en plein développement.
Un peu plus intense.
Dans le secteur, à l'est de la route 273, il y a un boisé là, le long du rang Saint-Lazare. Hier, c'était à l'ouest qu'on a fait malheureusement la découverte des deux corps, mais là, il semble que les recherches se concentrent à l'est de la route 273, qui relie notamment deux municipalités pas nécessairement voisines, parce qu'il y a 8 kilomètres qui séparent au sud Saint-Agapy et au nord Saint-Apollinaire.